Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Une causerie confinée, oui, parce qu'en ce moment on se confine, on n'a pas vraiment le choix, mais du coup on est quand même là, on essaye d'être là pour caresser les oreilles tous les dimanches soirs de 22h à 23h sur les ondes de Radio Canu. Et ce soir à la causerie, il y a MK.
Hello tout le monde.
Il y a Jean-Yves.
Bonsoir. Et il y a Fab.
Bonsoir. Et vous l'aurez compris, il manque quelques personnes, dont Clara, à qui on souhaite un prompt rétablissement ce soir, et voilà. Et vous aurez donc compris que la qualité technique risque d'être un peu inférieure à la qualité habituelle. Voilà.
Et on peut dire aussi que Jonathan manque à l'appel aussi.
Et du coup, pour nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Sinon, vous allez sur blogs.radiocanu.org/lacauserie et vous avez toutes les émissions sur les blogs de Radio Canu. Vous cherchez La Causerie, vous nous trouverez. Et petite nouveauté, vous avez même maintenant sur notre blog un player qui vous permet d'écouter les 10 dernières émissions qui ont été enregistrées et c'est plutôt cool. Sinon, on nous retrouve aussi sur des réseaux sociaux commerciaux, dont Facebook, et on peut, et vous pouvez nous écouter à droite et à gauche, mais plutôt à gauche, on préfère. Voilà, et on va, et on va démarrer cette émission avec un sujet. Donc, MK, c'est toi qui voulais nous parler de... Toc-toc, c'est ça, donc, comme disent les vieux.
C'est ça, ben voilà, c'est ça, exactement. Bon, les amis, pour démarrer mon sujet, il faut que je fasse ça bien. Et donc, je vais prendre ma voix d'animateur radio. Vous savez, le type de radio musicale, nationale, populaire, destinée aux prépubères qui fantasment et qui sont en extase, pour ne pas dire autre chose, hein, en extase rien qu'à l'idée d'entendre la voix de leur animateur préféré. Du coup, je compte sur vous, vous mes deux groupies, quand je ferai le décompte et quand j'aurai prononcé mes premiers mots, je compte sur vous pour crier comme des hystériques, comme lorsque Justin Bieber découvre furtivement sa mèche, vous savez, en entrouvant la fenêtre de sa chambre d'hôtel donnant sur rue au-dessus d'une masse noire de monde au son aigu atteignant la fréquence de 2000 Hz. On est parti ? 3, 2, 1... Bonsoir les tiktokeuses et les tiktokers, j'espère que vous êtes bien ce soir et chaud, car ce soir on casse la baraque et on retourne la maison. Bien évidemment, on fait porter le chapeau sur le chien ou le chat, ou du moins à ce qui se rapproche le plus, comme votre petit frère ou vos petites sœurs en bas âge. Bon, ça c'était mon petit aparté drôle, hein. Je vois que certains d'entre vous, Jean-Yves, ça le fait pas trop...
Ça, c'est qu'il se demandait à quel moment il fallait qu'on crie.
C'est trop rapide.
Quand j'étais en train de faire le décompte, mais bon, vous avez loupé. Vous avez
Voilà. On est très mauvais en TikTok.
Ah oui, oui, voilà. Effectivement, vous l'aurez compris, hein, je vais parler de TikTok. Effectivement, une nouvelle application. Alors, pas si nouvelle que ça. Hein. On croirait que c'est pour les jeunes. Mais ça ne l'est pas non plus. Donc, il y a deux types. Donc, le monde est divisé en deux. Ceux qui connaissent TikTok et ceux qui ne connaissent pas TikTok. Donc, voilà. Et c'est une application, du coup, créée par deux Chinois, du coup, qui avaient flairé une potentielle d'un nouveau réseau social. Hein, parce qu'effectivement, il sort de l'ordinaire. Hein, il ne ressemble pas aux autres réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter ou Instagram. Et donc, qui ont, au fil du temps, a pris de l'ampleur jusqu'à se faire racheter pour 1 milliard de dollars, rien que ça, en 2017, par une grosse société chinoise qui a en possession beaucoup d'applications à succès. Bon, ils avaient aussi dans leur groupe l'application TikTok, hein, version chinoise, et du coup, ils ont nommé les deux applications TikTok en une fois. Du coup, les deux communautés n'en fait plus qu'une, et les deux additionnés, on arrive à 700 millions d'utilisateurs.
Qui est énorme. C'est pas rien.
Ah oui, effectivement. Alors, en fait, cette application, elle permet de faire des vidéos de courte durée avec de la musique, hein, des effets, de montage, de base. C'est le fun, c'est léger, c'est drôle et c'est surtout très créatif. On y voit des vidéos de défis, des vidéos de dance, de danse plutôt.
C'est le jet lag.
C'est ça, ouais. Et de lip sync. Mais aussi des vidéos humoristiques ou complètement absurdes. Donc, on est loin des stories Instagram ou Facebook. Alors, comme c'est une fusion avec l'ancienne appli Musical.ly, il y a une très grande option de clips musicaux. Donc, c'est l'infini au niveau des montages vidéo musicaux qu'on peut faire là-dessus. Voilà, c'est une plateforme publique aussi. Donc, on n'a pas besoin d'être ami ou de suivre quelqu'un pour voir les vidéos.
Donc, pour être clair, ça veut dire que tout ce que tu produis et que tu mets en non privé sur la plateforme peut être vu par n'importe qui.
Voilà, exactement. Je reviendrai justement en détail sur ça. Et en fait, dis-moi.
Et donc, effectivement, c'est une plateforme, ou en tout cas, c'est un réseau qui n'est que visuel, en tout cas, surtout visuel, quoi.
C'est surtout visuel, mais comme on le verra, c'est aussi, il y a des échanges, hein, il y a une partie où on peut écrire, liker.
Ah, ok, d'accord.
Donc, du coup, sur TikTok, il y a une page home, comme maison, où on appelle ça, comme sur Facebook, fil de l'actualité, là, ça s'appelle une ligne du temps, où apparaissent en fait toutes les vidéos des utilisateurs, soit que vous suivez ou pas, ou qui sont recommandés également par le nombre de likes que vous faites par rapport à des précédentes vidéos. Et donc, il s'agit de vidéos courtes, hein, qui se consomment très rapidement. Maximum, on est sur du 15 secondes. Et on passe à une vidéo à l'autre très rapidement aussi. Et ça favorise à ce que les utilisateurs soient toujours occupés à regarder les vidéos. Enfin, c'est considéré aussi comme une appli addictive, car elle mène à l'extrême le système de récompense variable, terme créé vers les années 50, hein, pour faire court, pour définir le comportement d'un sujet devant une situation de laquelle il obtient des différentes récompenses de façon aléatoire. Donc, c'est ce fameux système où on fait défiler des vidéos et en fait, on pense qu'à chaque fois, la suivante sera meilleure que la précédente. Et donc, en fait, on est facilement addictif par le geste. Et on le retrouve, bien sûr, dans d'autres réseaux sociaux et puis même dans des applications de rencontres où on doit swiper. Vous savez, ce fameux terme « swiper » où on passe à droite ou à gauche jusqu'à ce qu'on matche ou pas. Enfin, bref, donc ça rend addictif. Donc ça, c'est il y a aussi un côté néfaste, hein, bien sûr, comme un réseau social, qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. C'est impressionnant aussi. Moi, j'ai remarqué, quand on regarde les plus grosses personnalités sur la plateforme, c'est une grande partie des jeunes de moins de 18 ans, donc des mineurs. Et donc, comme c'est la grande majorité qui ont moins de 18 ans, ça prouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont certainement moins de 15 ans aussi. Parce que c'est une application, du coup, qui est destinée aux adolescents et aux prépubères, hein, qui sont la première cible, en fait, de cette application.
C'est un peu problématique, non? Parce que ça veut dire que tout est public avec des vidéos faites par des mineurs.
Exactement. Donc, tout ça, on expose sa vie privée, en quelque sorte, hein, devant le public du monde entier. Alors, effectivement, il y a des paramètres à régler, hein. Mais bon, comme tout paramètre, comme Facebook, tout ça, c'est très compliqué. Et si on n'est pas suivi par un adulte qui est expérimenté, entre guillemets, tout est public par défaut. Voilà. D'accord. Effectivement, on peut rendre les vidéos privées, hein, ne le garder que pour soi-même, empêcher qu'il y ait des commentaires qui soient affichés sur les vidéos postées. Mais ça n'a aucun intérêt parce que le but premier justement de cette application, c'est de se montrer, de se faire voir et d'avoir un maximum de likes justement et que ça se diffuse dans le monde entier et avoir des followers. Et effectivement, j'en reviens à ça, l'autre chose choquante sur l'application, c'est le narcissisme en fait, à outrance. C'est incroyable, tout est calculé en fait pour être beau et faire envier les autres. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui font du playback, hein, sur des scènes de films connues. Hein. La plupart, c'est des scènes de films humoristiques puisque ça fait rire, hein, c'est ce qui se vend le mieux. Et bien, quand on regarde la majorité des commentaires qui sont affichés sur ces vidéos, alors c'est pas le terme « c'est trop drôle » ou « je me suis » ou « PTDR », tout ça qu'on retrouve, mais la majorité du temps, c'est « t'es trop beau » ou « t'es trop belle », des commentaires qui ont rapport avec le physique et rien rien à voir avec l'humour qui est du coup premièrement envoyé. Et du coup, c'est ce qui du coup nous amène à ce côté de l'hypersexualisation en fait. Et bah, surtout celle des jeunes. Et c'est ce qu'on appelle du coup la sexualisation précoce, hein, pour faire simple. Bah, c'est le fait que de plus en plus de jeunes soient du fait qu'on soit submergé de contenu absolument partout, hein, comme dans les pubs, dans les films, les séries, les magazines. Et dans les réseaux sociaux, tout ça engendre en fait une sexualisation anormale. D'ailleurs, c'est visible dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de tutos maquillage qu'on voit par exemple sur comment ça s'appelle, YouTube, où tu as des petites gamines ou des gamins aussi, hein, parce que les garçons et les filles sont à la même enseigne, hein, même pour le maquillage, hein, d'ailleurs, voilà, qui se mettent en scène pour se maquiller, mais non pas pour se maquiller comme une princesse ou comme un prince ou comme un chevalier ou pour se déguiser, ce qui est tout à fait normal pour un enfant, mais c'est de se maquiller comme un adulte. Donc il y a une, par exemple un exemple, c'est une jeune utilisatrice célèbre sur TikTok du nom de voilà, je ne vais pas le citer parce que du coup on n'est pas là pour faire de la, inciter les gens à regarder cette fille, qui est née en 2005. Donc en 2005, donc là elle a
15 ans,
voilà. Donc 15 ans, et là ça va faire à peu près, elle a commencé à 11 ans les vidéos, à faire des vidéos, tout ça. Donc c'est vrai que c'était un truc assez choquant. Mmh. Et du coup là on arrive sur quelque chose que moi je trouve assez grave, c'est justement cette exposition des mineurs et face à des prédateurs, tout simplement, mais des prédateurs sexuels. Effectivement, on a déjà eu des exemples dans le passé dans des sites de rencontres, dans des sites communautaires de jeunes, des blogs où les jeunes doivent se retrouver. On retrouve des adultes qui chassent, entre guillemets. Là, pareil, sur TikTok, on va retrouver également des commentaires. On va aussi retrouver des commentaires de personnes où on trouve de la malveillance, effectivement, la moquerie. Et parce que si on n'est pas dans les codes, la drôlerie, tout ça, on est vite attaqué sur le physique et sur plein de choses. Alors moi du coup, moi c'est vrai que je voulais pas non plus rester une heure sur ce sujet parce que là c'est TikTok, mais on a déjà parlé déjà des réseaux sociaux dans d'autres émissions dans le passé, effectivement, où on a tous ces côtés néfastes, mais moi je voulais vraiment parler de ce côté, comment on peut laisser des jeunes seuls face à cette application qui est toute récente, sachant que dans le passé on a quand même fait des avancées au niveau de la législation, les parents sont censés être plus au clair effectivement par rapport à ce qui se passe, parce que des scandales, il y en a eu, des exemples, il y en a eu, et pourtant TikTok se retrouve un petit peu comme libre en fait, et sans forcément de gendarme entre guillemets pour surveiller tout ça. Mm-hmm. Dis-moi.
En fait, ce qui est intéressant, inquiétant plus qu'intéressant, c'est donc en fait une plateforme où majoritairement il y a des gens qui donc sont mineurs, okay. Où les vidéos sont publiques et peuvent même être téléchargées, si j'ai bien compris.
Alors oui. Alors du coup, pour revenir à cette application, ouais, donc on fait des vidéos, donc on les sauvegarde entre guillemets dans la plateforme. Mais moi, si je veux, je peux effectivement, il y a un lien où on peut copier la vidéo effectivement qui s'enregistre sur ton téléphone. Donc voilà, effectivement.
Ouais, donc du coup, c'est quand même c'est plus qu'inquiétant, quoi. C'est-à-dire que ça peut quand même créer des situations extrêmement malsaine, voire dangereuse pour les plus jeunes. Alors que tu parlais effectivement des prédateurs sexuels, il y en a sûrement sur ces plateformes-là, et comme il y en a sur d'autres, ça, là-dessus, il y a malheureusement pas à en douter. Et du coup, ça facilite même le côté collectionneur que peuvent avoir certains prédateurs sexuels. Mais là, au-delà de ça, c'est-à-dire que rien ne s'efface. Donc en fait, si des gens se retrouvent à être harcelés, simplement harcelés par rapport à ce qu'ils font, ben, on peut ressortir en ad vitam aeternam la vidéo. Et voilà. Et donc c'est assez c'est flippant, quoi, parce que c'est, enfin, en termes de rapport à la vie privée et de rapport aux autres, c'est plutôt inquiétant quand même.
Alors, voilà, et en fait quand on s'inscrit sur TikTok, c'est très très facile, hein, il n'y a besoin de rien, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut suivre les vidéos sans être ami ou sans être abonné à une personne. Il n'y a pas de traçage entre guillemets. On ne cherche pas à voir quel âge on a, on peut très facilement mentir. Donc, il y a tout sur TikTok. Et pour revenir effectivement sur le fait d'enregistrer les vidéos, donc on peut arriver au chantage, effectivement, entre jeunes. Quand il y a une vidéo qui, effectivement, peut faire, entre guillemets, selon certains critères, un flop, ou qui peut être sujet de moquerie, qui peut être justement diffusée ensuite dans toutes les cours de récré, en primaire, au collège ou au lycée. Et on peut, du coup, s'attendre à des drames, hein, effectivement.
Bah après, avec ces réseaux-là, en fait, il y a plein de choses, je trouve, qui viennent se croiser. C'est-à-dire dire que le harcèlement, la violence entre plus jeunes, déjà, je pense qu'elle a toujours existé. Mmh. Mais effectivement, ces applications ont quand même des conséquences beaucoup plus lourdes, je pense, parce que beaucoup plus largement diffusées. Enfin, avant, quand tu faisais un truc merdique à la rigueur avec 3-4 potes autour, c'était juste entre 5 personnes, quoi.
C'est ça.
Aujourd'hui, tout devient des dossiers, quoi. C'est-à-dire que tout devient potentiellement un dossier. Après, autre question, c'est en fait, est-ce qu'un enfant est censé être autorisé à s'inscrire sur une application comme ça?
Oui, parce qu'il n'y a pas d'autorisation parentale, justement, pour s'inscrire. Là, il faudrait voilà, c'est ça. C'est là où le bas blesse, c'est que cette application, il faudrait que derrière, il y ait des adultes, entre guillemets, qui soient là et qui surveillent. Et on vient à la question de l'éducation, en fait.
Mais ouais, justement, c'est ça, là, finalement, la suite. C'est la que suite. La suite, fin de la réflexion, oui, c'est ça. Qu'effectivement, quitte à dire, à attacher les mains de votre enfant, de votre ado, pour qu'il n'aille surtout pas sur ces outils du mal capitaliste, enfin tout ça. Bon, à part ça, on peut peut-être justement effectivement aller plus sur une notion de d'éducation à ce média-là, parce qu'en fait, les règles qui fonctionnent avec ce média qu'on dit social, mais qui est toujours, on est quand même entre, c'est même pas entre le commerce et le social, on est clairement dans du commercial le biais du social.
On est purement dans le commercial. Justement, je vais rebondir rapidement là-dessus parce que faut pas oublier que, comme tout autre réseau social, toutes les données sont vendues effectivement à tous ceux qui veulent acheter. Effectivement, on préparait tout à l'heure l'émission et Fabien, chose que je ne savais pas, disait par rapport à ses collectes de données, notamment en Chine, pour la reconnaissance faciale.
Ouais, TikTok en fait a clairement dû avouer entre guillemets avoir fourni des banques de photos et de vidéos pour aider les intelligences artificielles de reconnaissance faciale. Donc clairement en fait ils ont vendu une banque avec plein de visages, plein de gens différents pour entraîner les logiciels qui servent aujourd'hui à la répression en Chine.
Oui, et puis il faut savoir que c'est des logiciels qui sont amenés, malheureusement, j'allais dire, à être vendu dans le monde entier, puisque beaucoup d'États cherchent justement à se procurer ce genre de police, entre guillemets, effectivement, en Chine, alors là, je vais essayer de tenir mes propos assez correctement. On a un type de faciès qui est, je dis pas identique, mais qui est en rapport avec la région, un type de faciès. C'est vrai que leur fournir d'autres visages permet à leur logiciel de s'améliorer.
De s'entraîner ailleurs. C'est un peu le truc que l'intelligence artificielle aux États-Unis qui avait été faite que sur les populations blanches et qui ne reconnaissait pas du coup les populations qui avaient des ethnies différentes. Et là, en fait, les Chinois, pour vendre leur logiciel, avaient besoin finalement de prouver que le logiciel pouvait reconnaître aussi bien des personnes asiatiques que des personnes dites caucasiennes, que des personnes dites de type africain. Et donc voilà, et le fait de s'allier ou du moins d'acheter les vidéos et les photos de ces applis, mais ils l'ont fait aussi avec Instagram, ils l'ont fait avec Twitter et autres. Hein. Et en fait, ça leur a permis en fait d'entraîner leur logiciel et pouvoir être vendu à l'international. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a quand même un côté extrêmement capitaliste dans ces sociétés-là et qu'on peut pas nier. C'est que moi, j'ai vu récemment, par exemple, le patron de TikTok qui disait oui, mais vous voyez, sur notre plateforme, on a pas mal de liberté parce que même des gens s'en servent pour dénoncer des choses. Alors, ok, sauf que ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que globalement, les gens, ils s'en servent pas pour dénoncer, ils s'en servent avant tout pour se mettre en scène. Et surtout, la société en elle-même, la première chose qu'elle fait, c'est de la collecte de données. Et ça, c'est son premier métier, en fait.
Ouais, je voulais juste effectivement rebondir là-dessus. Ils sont pas un peu capitalistes, ils sont clairement capitalistes. C'est ce que quelqu'un de la causerie répétait souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc je veux dire, de toute façon, et si admettons, tout le monde fonctionnait avec la logique de dire, bah tiens, moi je me fais une petite vidéo perso juste pour m'amuser moi et que je les diffuse à mes potes. Ben en fait, est-ce que TikTok existerait en fait? Est-ce que TikTok existerait si on ne faisait que des trucs pour soi et que l'entreprise pouvait pas, admettons, utiliser? C'est hyper intéressant, mais c'est toujours, oui, c'est purement capitaliste, effectivement. Enfin, on va arrêter de se leurrer, quoi.
Même si ça, comme tu disais, ça permet aussi un outil de dénonciation et de critique. Bon, s'il n'existait pas TikTok, il y aurait d'autres moyens de faire des choses. Mais c'est quand même aussi intéressant de savoir que finalement, tout ce qui se crée par ce capitalisme, le genre humain peut l'utiliser aussi à sa manière et se l'approprier. Et c'est tout à fait une chose aussi, d'ailleurs. Oui.
Mais ce qui est important, c'est ce que tu disais, c'est de rappeler aux gens que cette application qui est plutôt destinée aux plus jeunes, Et ben en fait, il faut, si vous avez des enfants, tout ça, il faut vous y intéresser. Ça sert à rien de leur dire t'y vas pas parce qu'ils iront. Voilà, faut être très clair.
Complètement, oui.
Mais par contre, il faut leur expliquer les enjeux et puis faire attention à la façon dont elle est installée. Ça, tu voulais rappeler en premier lieu, quoi.
Et puis, si vraiment c'est compliqué, il y a vraiment des sur Internet, on trouve facilement les informations sur comment bien protéger ces données et rendre privées les informations, ne serait-ce que sur Facebook, tout ça, et même sur TikTok. C'est vrai que des fois, c'est pas facile d'accès. De prime abord, vous savez, quand on va sur ce genre de site, hein, forcément, il faut chercher la bonne fenêtre, cliquer au bon endroit pour mettre tout en privé, si on veut, dans l'idéal, garder l'application et l'utiliser comme un outil, voilà, de loisir et créatif, hein, et pas s'en servir pour et semer toutes les vidéos dans le monde entier. Mais voilà, si on ne sait pas faire, c'est vrai que sur Internet, on tape comment rendre privé ces données, on trouve facilement les informations. Voilà, je voulais terminer sur ça, c'est effectivement sur bien faire attention, effectivement, et puis c'est une question d'éducation aussi.
Eh ben c'est cool. On se fait une petite pause
Allez,
musicale et on
faisons ça.
revient juste après.
Allez, ça
Allez.
marche.
J'ai cherché partout, dans les dunes du désert, aux formes fluides et légères, dans le fond des océans, aux reliefs proéminents. Sur les joues bien rebondies des chérubins du parvis, et même chez le boulanger, sous chaque miche enfarinée. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? J'ai pourtant l'image bien ancré dans mes gènes de la femme prototype qui radieuse se promène avec ses deux beaux archétypes en gloire à sa féminine condition de gourgandine et qui, ma foi, s'étonne un peu qu'on ne la regarde pas dans les yeux. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi? Est-ce papa qui préféra que je n'en ai pas? J'ai cherché partout, dans les corbeilles à fruits, aux pommes lisses et brillantes, dans les volutes d'Arménie, aux formes parfois accablantes, sur le papier glacé qui vous révèle des rondeurs tabous, même sur le marbre des statues parfaites en tout point de vue. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi? Est-ce papa qui préféra que je n'en ai pas? De leur propre volonté, peut-être s'en sont-ils allés, peut-être aussi tout est permis qu'ils reviendront au balcon. Non, des gros, au balcon! Au balcon, au balcon! Non, ça c'est des petits. Au balcon! J'ai soupiré souvent en admirant la lune ou les blancs cumulonimbus. J'ai même trouvé des volumes sur le plus piquant des cactus. Suis-je donc le seul être sur terre que la nature fit rectiligne? Ah oui, tiens, parlons-en de la terre, ce gros sein rond qui me déprime. Où sont mes nichons? Où sont-ils? Où sont mes nichons? Où sont-ils? Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats, pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep? Est-ce maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi? Mon cul fut-il si jaloux qu'il ne toléra concurrence, me faisant une faute de goût des plus plates désobligeances? Je n'avais pas vu qu'au-dessus de mon ventre, entre la gorge et le nombril, là où tes mains se tentent, j'étais en fait assez fébrile. Et qu'après 1000 caresses et autant de baisers, avec patience et adresse, tu as su les trouver. Voilà mes nichons. Sous tes mains, voilà mes nichons. Sous tes mains. Et s'ils sont si petits, c'est pour mieux sentir pardi. Dessous mon cœur qui bat, mon cœur qui bat pour toi. Et s'ils sont si petits, c'est pour mieux sentir pardi. Dessous mon cœur qui bat pour toi.
Et vous êtes bien sur Radio Canu, à l'émission de la causerie de 22h à 23h sur tous les dimanches. Hein. Vous êtes bien chez vous et nous chez nous en mode confiné. Vous venez d'écouter Barbara Wellness avec son titre « Où sont mes nichons ?»
Et on se pose tous la question.
Mais oui, moi j'ai eu un début de réponse tout à l'heure, c'est sous mon t-shirt apparemment. Voilà. Après ce petit intermède humoristique, je voulais, du coup, on passe la parole à Fabien, oui, qui va nous parler d'un endroit paradisiaque, hein, si je ne m'abuse.
Oui, je vous emmène à les îles Marshall. Situées au sud-ouest de la zone nord de l'océan Pacifique, à l'est des îles Caroline, au nord-nord-ouest des îles Gilbert, elles sont un petit lieu de paradis au milieu de l'océan. Constituée de 30 atolls et de 1100 îles, dont la plupart sont désertes, son sol volcanique offre une luxuriante végétation et des biotopes typiques. Seules 4 villes dépassent 2000 habitants, dont la capitale, Delap Ouliga Darit. On y parle le marshallais et l'anglais. La température moyenne oscille entre 22 et 35 degrés toute l'année en journée. Et même si elles sont balayées de temps en temps par des cyclones, il y fait bon vivre. La température de l'eau oscille, elle, entre 27 et 31 degrés toute l'année. Bref, c'est un peu l'endroit rêvé pour passer ses vacances. Mais alors pourquoi je vous parle de ces îles, moi?
Ben oui.
Est-ce que la causerie serait devenue une sorte de...
D'agence de voyage.
D'agence de voyage? Eh bien non, vous l'aurez deviné, ça n'est pas lié à la beauté des îles. Alors qu'on commémore en ce moment le 34e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, on a souvent tendance à oublier les autres lieux entachés par la folie nucléaire. Et si je vous parle des îles Marshall ce soir, c'est justement parce que cette région paradisiaque a été et est toujours un lieu meurtri par la folie nucléaire et en particulier par la course à l'armement atomique. Après avoir été un lieu de lutte militaire entre le Japon et les USA pendant la Seconde Guerre mondiale, durant lesquels beaucoup de gens de Marshallais ont été tués, les USA les ont annexés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont trouvé que ces terrains, au milieu de nulle part, étaient idéaux pour tester la bombe A et la bombe H.
Bah oui, je veux dire, voilà.
Inutile de faire de l'anti-américanisme primaire, la France fera exactement la même chose avec Mururoa, un atoll sous domination française. J'en parlerai d'ailleurs dans une autre émission. Donc, les essais nucléaires vont durer de 1946 à 1964 officiellement. Je dis bien officiellement, car il n'y a toujours pas de date réelle de la fin des essais. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui a été avoué, on va dire. Peut-être qu'ils en ont fait un peu après. Voilà, on ne sait pas.
Oui. Oui, parce que j'imagine que ces essais-là, c'est toujours sous le commandement des...
Du Pentagone.
Du Pentagone.
Voilà.
Et une grande muette, elle aussi, j'imagine.
C'est l'armée.
Le secret, quoi, c'est classé confidentiel, comme on dit.
Ça. Voilà. Donc, c'est en particulier le fameux atoll de Bikini qui va servir de lieu d'explosion nucléaire. Et oui, le Bikini vient de là aussi, le maillot de bain. Et oui, parce qu'en fait, quand on a sorti le Bikini, à l'époque, pour vendre, on disait « voilà une vraie bombe atomique ». Ah, qu'est-ce qu'il était drôle, le vendeur de maillot de bain. Voilà, c'est horrible.
On parlait avant du cynisme des capitalistes.
Voilà. Donc, bien entendu, ces essais ont été faits sans prendre réellement de précautions, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et bien des marshallais souffrent aujourd'hui encore de maladies liées aux hautes doses de rayonnement qu'ils ont reçues au moment des essais, eux ou leurs parents. Parce que je vous rappelle que malheureusement, l'irradiation crée des défaillances sur plusieurs générations, et sans forcément qu'on ait soi-même irradié. On estime même que le taux d'irradiation et d'exposition ramené à la population est le même que pour les populations qui se trouvaient autour d'Hiroshima au moment du largage de la bombe atomique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, pas à Hiroshima même, mais les gens qui étaient autour, qui n'ont pas été touchés directement par l'explosion, mais par les rayonnements. Donc, c'est des rayonnements très, très élevés. Mais dans les années 70, les mouvements antinucléaires prennent de l'ampleur, notamment par le fait que les gens commencent à se dire mais c'est dégueulasse qu'en fait on est la bombe atomique, hein, tout simplement, ou vont se lutter contre les centrales nucléaires. Et donc il a été demandé aux USA de nettoyer ce qu'ils ont fait sur ces îles. Pourquoi? Parce que l'État américain a été condamné par sa propre justice, parce que des associations ont fait en fait valoir le droit des Marshallais, et en fait ils l'ont fait avec des associations d'abolition des armes nucléaires. Je vous rappelle que c'était des associations extrêmement puissantes, notamment dans les années 50, où la pétition de Stockholm, hein, qui demandait la démilitarisation du nucléaire, a été signée par plus de 500 millions de personnes dans le monde. Donc ça a du poids quand même. Aujourd'hui, c'est un combat qu'on a tendance à avoir abandonné, alors qu'il était beaucoup plus présent dans les années 50 à 80.
En même temps, Nagasaki
C'était
et
plus
Hiroshima
étaient plus proches.
Étaient plus proches ouais.
Donc, ils ont obtenu ça. Les USA étant condamnés et la République des îles Marshall exigeant son indépendance de façon de plus en plus forte, eh bien, il a bien fallu nettoyer. Donc, il a fallu trouver une solution logique.
Donc,
c'est ça.
Les USA sont donc sommés de nettoyer leurs dégâts. Plusieurs plans sont envisagés à ce moment-là, et le seul efficace, réellement efficace, c'est-à-dire qui permet de dépolluer et d'éviter de laisser de la contamination nucléaire sur place, coûterait plusieurs centaines de milliards de dollars, étalés sur plusieurs années. Le Pentagone estime que c'est beaucoup trop cher, toutes ces histoires, quand même, hein, faut pas déconner. Donc il va proposer une solution alternative. En 1974, lui revient à un ingénieur du Pentagone le souvenir de la fameuse bombe Cactus. La bombe Cactus, c'est une bombe qui a été testée, c'est une bombe H, qui a été testé sur les atolls des îles Marshall, sur un atoll des îles Marshall. Difficile d'oublier d'ailleurs hein, cette explosion sur l'île de Runit, parce que l'explosion, elle a fait un trou qui n'était pas prévu et elle a laissé un cratère profond et mis à jour une cavité estimée à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de profondeur.
Ah oui.
Donc cet ingénieur se dit, j'ai un gros trou.
Donc ça me fait une poubelle.
Voilà.
Il faut combler quoi.
Et donc, je vous le donne donc en mille, quelle idée totalement stupide a pu bien être mise en place? Eh bien oui, l'ensemble des terres, des biens, des outils, des matériaux radioactifs qui étaient sur les îles Marshall ont tous été rassemblés dans ce gros trou. Ils ont tout mis dans le trou, engloutis. Et ils ont mis dessus un dôme de béton d'un diamètre de 115 mètres. Ouais, c'est un gros, gros dôme hein, quand même. Et d'une épaisseur de 45 cm. Comme le disait MK pendant la prépa, on dirait les vaisseaux de V pour la série. Voilà, exactement. Et donc voilà. Alors, il faut déjà savoir que tous les ingénieurs nucléaires de l'époque expliquent que 45 cm, c'est pas assez gros.
Mais oui, mais j'ai pensé à l'instant, je dis mais... Car on arrive à faire les bunkers, tout ça, avec des murs épais de 1 mètre, tout ça.
Oui.
Et encore, on est plus ou moins protégé quand il y a une bombe. Là, ça protège
pas. Ben là, le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas faire cher. Donc, ils ont mis des dalles, en fait, de béton qu'ils ont réunies pour faire un dôme. Vous voyez, on ne va pas s'embêter. Voilà. Donc, les USA, après ça, ils ont dit ça, il y a assez propre. Hein, voilà, enfin, le Patagonie, c'est propre.
Tapis, en fait.
C'est exactement ça, ils ont mis la poussière sous le tapis. Et donc, ils ont signé un chèque avant de partir définitivement, vu qu'ils ont rendu quand même leur indépendance aux îles Marshall. Et ils ont estimé qu'après ça, eh ben, ils avaient tout fait ce qu'il fallait. Bah, sauf que non.
Bah,
voilà.
Oh, t'es tatillon, là, je trouve.
Alors déjà, on va rappeler que dès l'installation du dôme, des mesures ont été faites sur place qui démontraient que le taux de radioactivité à la proximité du dôme était équivalent à celui qu'on trouve à Tchernobyl, autour de Tchernobyl. Donc, le dôme, il protège pas grand-chose en réalité, hein, il n'empêche pas la radioactivité de se barrer. Mais c'est une radioactivité dite courte, c'est-à-dire que si vous éloignez du dôme, ouais, vous n'êtes pas irradié fortement. Sauf que ça pose problème parce que les Américains avaient vendu ça comme un dôme étanche. A priori, il ne l'est pas. Hein.
Déjà,
autre aspect, ils n'ont pas recouvert la cavité de béton. Ils ont mis ça à même le sol. Ils ont versé ça dans l'océan.
Ils n'ont pas mis un sac poubelle, triple épaisseur.
Voilà. Non, ils se sont dit, on va tout mettre comme ça, on met un couvercle, ça va bien se passer. Donc, en fait, on retrouve de plus en plus des éléments radioactifs ou des éléments toxiques qui remontent à la surface par capillarité des sols. Bah oui, parce que quand c'est directement collé à la terre, oui.
Ah, mais c'est un trou que tu disais qui a été fait par la banque Cactus, ouais, mais qui était sur terre ou sur mer, en fait.
Ça a créé une sorte de nouvel atoll. En fait, ça a fait un trou qui a été rempli par la mer d'un seul coup, ouais, parce qu'en fait, ça s'est effondré, ça a créé une cavité, elle était enterrée dans le sol, ça a explosé, ça a fait un énorme cratère que la mer est venue combler, l'océan,
donc,
en fait.
Ils ont balancé les déchets dans l'eau, en fait.
C'est ça, dans l'eau, ils ont rempli.
Donc, en fait, c'est une poubelle remplie d'eau.
Non, parce que quand tu remplis l'eau
s'enfuit.
Donc, non, rassure-toi, vraiment, ça a été super bien
pensé. Donc, en gros, on découvre énormément de choses. Donc, c'est bien vers une catastrophe de grande ampleur qu'on se dirige si rien n'est fait. Pour vous rassurer, voilà ce que déclarait Jacques Hadding, qui est membre du Parlement des Marshall. Il parle du trou, hein. Il est bourré de polluants radioactifs comme du plutonium-239, une des substances les plus toxiques connues à l'heure actuelle par l'homme. Tout va bien. Et il rajoute, le cercueil a des fuites de poison dans l'environnement immédiat. Le pire est qu'on nous dit de ne pas nous inquiéter des fuites, car les niveaux de radioactivité à l'extérieur du dôme sont au moins aussi élevés qu'à l'intérieur. Oui, cette phrase est totalement cynique, parce que lui, il dit, mais on nous prend vraiment pour des imbéciles, Le souci, c'est qu'en fait, la radioactivité mesurée, elle est jusqu'à 100 fois supérieure à la norme minimale admise par les autorités internationales. Donc, on voit que les Marshall, on les laisse vraiment dans leur merde. Hein. Débrouillez-vous et voilà. Le problème, c'est que l'archipel des Marshall, elle n'a ni les moyens financiers, ni la technologie nécessaire pour prendre en compte et traiter le problème de ce dôme et éviter une contamination de grande ampleur des eaux du Pacifique. Parce que clairement, c'est ça son problème aujourd'hui. C'est que ça peut polluer l'ensemble des eaux du Pacifique autour des îles Marshall et bien au-delà. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Californie, qui n'est pas très très loin, a commencé à s'inquiéter des potentielles dérives de produits toxiques jusqu'à ces plages. Et c'est pour ça que les élus démocrates de Californie ont demandé au Congrès américain de se pencher quand même sur une solution. Parce qu'ils se disent, nous, en fait, on a un peu des touristes, des gens qui vivent, tout ça, donc voilà, on n'aimerait pas mourir tout de suite. Alors, je vous rassure, Donald Trump a répondu, écoutez, on a nettoyé, on a payé, on va pas se faire chier. C'est pas comme ça, mais c'était pas loin. Donc, voilà.
À la hauteur du personnage.
Voilà. Donc, on voit que c'est un problème très complexe. Donc, c'est l'ONU qui va s'emparer, en fait, de ce qui se passe là-bas et qui va tirer la sonnette d'alarme en disant, mais on est quand même au bord d'une catastrophe nucléaire majeure. Pour être très clair, ouais, c'est ça. Oui. Donc, les eaux du Pacifique, qui ont déjà bien morflé avec Fukushima, hein, d'un point de vue nucléaire, elles risquent d'être de nouveau polluées par énormément de déchets nucléaires qui risquent de se retrouver disséminés aux quatre coins de l'océan Pacifique. Parce que le problème, c'est les courants. C'est ce qu'expliquent les scientifiques, c'est que si ça s'en va, ça va suivre les courants. Mais les courants, c'est pas toujours où ils vont. Et puis, on se bat jusqu'à quelle plage ils vont, tout ça, tout ça. Donc, il n'y a pas de solution simple. Pour décontaminer ou sécuriser, ça va coûter des milliards de dollars, ça c'est sûr. Ça va prendre du temps, ça c'est sûr aussi. Sauf qu'en fait, personne ne se bouge. Alors déjà, les USA et l'administration Trump, ils estiment, comme je vous l'ai dit, qu'ils ont payé leur dû et que ce n'est pas leur problème. Hein, et à un moment donné, ça va deux minutes. L'Europe refuse d'aider un paradis fiscal qui ne collabore pas avec elle. Ça, c'est l'excuse officielle. En réalité, en sous-main de cette Europe, c'est la France qui freine des cas de fer. Parce que la France, elle n'a pas trop envie d'aller devoir dépolluer Mururoa et dépolluer le désert algérien, où elle a fait des gentils essais nucléaires, évidemment. Bah, comme ils sont français, ils sont forcément gentils, vous comprenez, c'est le principe, non, c'est pas comme ça que ça marche. Pardon, j'avais oublié. Donc la France, elle freine. Et le Japon, lui, il minimise les risques depuis des années. Il dit, mais non, tout va bien. Bah, vous commencez bien, avec Fukushima, ils ne veulent pas être montrés du doigt. Si on doit dépolluer les îles Marshall, il faudrait obligatoirement que le Japon dépollue mieux Fukushima. Et donc tout le monde, en fait, se renvoie la baballe en disant, c'est pas mon problème.
Ouais, c'est le problème des gens qui habitent sur l'île Marshall et basta.
Voilà. Sauf qu'en
du coup, c'est qui en pâtit au final?
Eh ben eux.
Déjà pour commencer.
Et puis nous, parce qu'en fait, voilà. Si l'accident nucléaire a lieu et si ça se fissure, il y a des spécialistes qui estiment que ça va se disséminer dans l'océan. Ouais. Et contrairement à Fukushima, ce ne sont pas des eaux irradiées qui vont aller se balader. Attention, hein, le spécialiste ne minimise pas. Ils expliquent simplement que c'est pas le même type de polluant. Là, ça va être des matières solides qui vont se balader et qui vont aller se balader dans l'océan Pacifique. Donc les matières solides restent radioactives beaucoup plus longtemps. Et surtout, elles sont assimilables par le plancton, notamment, qui est lui-même mangé par les poissons. Poissons que nous mangeons nous-mêmes. Et donc, en fait, en réalité, on risque d'intoxiquer la chaîne alimentaire pendant des siècles. Et ils disent, mais c'est pas anodin, en fait, en réalité. Donc, ils disent, est-ce que vous avez envie, par exemple, c'est un spécialiste qui disait ça, est-ce que vous avez envie de devoir mettre un compteur GGR sur tous les poissons que vous remontez de l'océan Pacifique pour vérifier qu'ils ne sont pas radioactifs? Pour persuader, quoi. Voilà.
Et encore, je pense qu'il faudrait le faire déjà dès maintenant. C'est que l'eau est tellement pollué.
Exactement. Mais donc, on voit l'opacité autour du nucléaire, c'est toujours de mise. Donc, en fait, on fait tout et puis les risques, on laisse à une minorité de personnes et généralement des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre ou de faire quoi que ce soit face à l'énormité du problème. Aujourd'hui, les habitants des îles, hein, ils sont majoritairement pauvres. Parce que c'est un paradis, les îles Marshall, mais c'est surtout 35% de la population locale qui est au chômage et 15% qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, on voit qu'on n'est pas face à des îles où l'argent coule à flot. Même si c'est un paradis fiscal et où quelques gros bonnets se font de l'argent, c'est pas l'ensemble de la population, très loin de là. Donc, ils sont laissés seuls face à ce risque. Le risque est juste d'être l'une des plus grosses catastrophes nucléaires. Il y a des spécialistes qui disent que ça risque d'être plus important encore que Tchernobyl. Pour eux, ils disent, en réalité, ça pourrait être plus important et plus impactant que l'accident de Tchernobyl. C'est quand même pas rien.
Ouais. Ouais. Encore une fois, on fait primer l'économie et tout ça avant l'humain, quoi.
Tout à fait.
Et déjà, on en parlait il n'y a pas longtemps avec le coronavirus, qu'on faisait primer l'économie face à la santé. Et là, en fait, on va attendre quoi? On va attendre qu'il y ait cette catastrophe encore pour pouvoir réagir et dépenser encore deux fois plus, finalement.
Oui, et surtout perdre des vies humaines entre-temps, hein, et des vies tout court, parce que ça ne va pas toucher que les humains.
Le plus dramatique, c'est ça, en fait.
Alors, je suis peut-être le plus pessimiste de la bande. Mais moi, je pense même qu'on va rien faire du tout, en fait, qu'ils ont absolument rien à foutre et qu'ils vont pas aller s'enfoncer dans un merdier pareil, en fait. Vraiment, mais alors je suis ultra pessimiste. Hein.
Tu veux dire, une fois qu'il y aura l'effondrement du dôme ?
Mais oui. Ou ils vont refaire un dôme par-dessus, et basta, mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Je veux dire, Tchernobyl, qu'est-ce qu'on fait ? On continue de grossir le dôme, là, le truc, etc. Fukushima, on en est où ? L'État japonais ou TAPCO, je crois.
TEPCO.
TEPCO cherchait à avoir l'autorisation de déverser les eaux dégueulasses avec du nucléaire dans l'océan, parce qu'ils savent plus quoi en foutre. Donc, de toute façon, c'est le nucléaire est une course vers la mort à tout prix, en fait. Et c'est ça le drame du nucléaire, en fait. C'est qu'une fois que tu as foutu le doigt dedans, eh ben, il faut vraiment une vraie grosse mobilisation et une grosse volonté politique de s'arrêter d'utiliser ce truc-là, quoi.
Et justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire.
Mais rebondis donc.
Parce que les habitants de Runit, oui, parce qu'il y a des habitants sur cette île. Ils sont à peu près 800 habités l'île, hein, de l'autre côté du dôme. Hein, donc voilà. D'abord, ils sont beaucoup à être malades. Ils sont soi-disant suivis par des laboratoires américains et des laboratoires locaux, mais ils commencent à douter fortement des résultats qu'on leur donne, parce qu'ils se disent que ça ne colle pas vraiment avec les maladies qu'on observe. Et en fait, ils rappellent en fait au monde entier que beaucoup de spécialistes estiment que le dôme, là dont je vous parlais, par rapport à Fukushima, c'est 15 fois Fukushima. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, qu'ils essayent d'expliquer. C'est qu'en termes de matière radioactive et de déchets, on est à 15 fois ce qu'il y avait dans Fukushima. Donc, ils disent, c'est pas rien. Et eux, ils nous appellent tous à mettre la pression. C'est pour ça que tu parlais de politique. À mettre la pression sur nos gouvernants pour que cette situation ne soit pas oubliée au fin fond de l'océan Pacifique, là où il fait si beau et où, toute l'année, vous êtes entre 27 et 31 degrés toute l'année pour l'eau. Voilà. Ils demandent juste à ce qu'on arrête d'oublier que c'est pas qu'un paradis, mais que c'est aussi un problème et qu'il n'est pas eux le problème, mais ce qu'on y a fait. Voilà.
Mais de toute façon, c'est un vrai problème. Le nucléaire est un vrai problème par tout ce qui l'entoure, en fait. C'est-à-dire, il y a une vraie mainmise autour du pouvoir politique, une vraie politique aussi du silence et de l'omerta.
Et là, c'est l'armée, hein,
parce que
c'était les bombes atomiques.
Mais c'est tout le truc, en fait. C'est que de toute façon, le nucléaire est intimement lié aux armées et que donc, dès que c'est lié aux armées, c'est la grande muette. Et ça, les grandes muettes, elles sont dans tous les États avec leurs armées. Donc, c'est vraiment, il faut une pression absolument mondiale, mais des gens, pas des pouvoirs politiques. Il faut arrêter d'attendre sur eux. Mais c'est à nous d'agir. Et qu'en même temps, c'est quand tu vois la lutte qu'il peut y avoir à Bure contre l'enfouissement des déchets radioactifs, etc., bah, ça n'a pas un grand succès non plus, quoi. Enfin, tout le monde s'en fout un petit peu et puis on se trouvera une raison de « bah ouais, mais il faut quand même se chauffer et puis il faut quand même de l'électricité ». Enfin, on se trouve toujours une bonne raison de ne pas agir, quoi. Et qu'en plus, en France, le nucléaire, enfin, il y a quand même une histoire intime de la France et du nucléaire qui dure depuis des dizaines d'années et que, ouais, il faut en rêver des gens, des populations, quoi, qui ensuite iront secouer leur pouvoir politique.
Enfin, en tout cas, voilà, ne vous désintéressez pas des îles Marshall. Et moi, je vous propose qu'on respire un petit coup avec un peu de musique et on revient juste après.
Allez, ça marche.
The music scene.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. On vient de s'écouter le groupe Blockhead avec The Music Scene. Et franchement, c'est très, très bon. Je vous conseille d'écouter du Blockhead, c'est bien. Et pour continuer cette causerie, on avait pris l'habitude de lire des témoignages en fin de causerie. Enfin, c'est surtout Clara qui le faisait. Mais comme Clara n'est pas avec nous, ce soir, c'est Jean-Yves qui prend la relève et qui va nous lire un témoignage d'une tranche de vie sous le Covid.
Ouais, c'est ça. C'est effectivement Clara qui avait initié le truc et je pense que c'est très intéressant comme truc d'avoir des retours de gens qui effectivement subissent le Covid comme nous toutes et tous. Alors, je vais vous lire un témoignage. Donc, lieu de vie pour mineurs et Covid. Nous sommes en couple et nous travaillons en tant que permanents sur un lieu de vie accueillant 8 mineurs placés par la protection de l'enfance. C'est-à-dire que, à raison de 2 semaines sur 4, nous vivons avec eux en continu en tant qu'éducateurs où notre mission principale est la médiation des liens et le bien-être physique et psychique des enfants, sans oublier la prise en charge de tout ce qui incombe à la vie quotidienne, courses, cuisine, ménage, lessive, trajet, etc. Ce lundi 16 mars, en début d'après-midi, nous avons pris la route du travail avec peu d'enthousiasme et beaucoup de questions. Déjà, il y avait eu l'annonce de la fermeture des écoles le jeudi précédent. Bien qu'en repos, nous avions déjà fait une projection de ce que cela allait impliquer dans notre travail. Les 8 enfants seraient présents toute la journée. Un peu comme en période de vacances, nous étions nous dit. Mais bon, ce ne sera pas des vacances, puisque depuis samedi, nous savions que les lieux accueillants du public étaient fermés jusqu'à nouvel ordre. Et pour ajouter un peu à l'ambiance déjà pesante, nous avions reçu un mail le matin même nous informant qu'un enfant avait été en contact avec un cas avéré dans sa classe. Après notre réunion de travail, les nouvelles consignes étaient claires. Mise en quarantaine pour 15 jours de l'enfant susceptible d'être contaminé, mise en place des gestes barrières, notamment le respect de la distance d'un mètre, mais sans le matériel nécessaire, pas de gants ni de masques, parce que nous ne sommes pas prioritaires. Annulation de toutes les prises en charge extérieures, ainsi que des visites familiales. Elles ont été renforcées le soir même par l'annonce du confinement, venant encore restreindre nos mouvements. Nous étions inquiets car cette situation renvoyait les enfants à leur problématique principale. Peu de capacité à s'occuper seuls et gestion difficile de leurs relations aux autres. 2 enfants du lieu de vie ne peuvent pas rester ensemble sans la médiation d'un adulte, car leurs différentes problématiques psychiques ne leur permettent pas. Conflits, domination, violences physiques et verbales, etc. Finalement, cette période de confinement aura demandé une adaptabilité extrême. Les enfants ont dû accepter le fait qu'ils ne verraient pas leur famille pour le moment. Difficile, quand on a 6 ans, de comprendre qu'à cause d'un virus, on ne verra plus sa maman et sa sœur une fois par semaine, comme décidé par le juge. Ils ont dû accepter aussi la distance imposée par les gestes barrières. Pas de bisous le matin pour se dire bonjour, plus de brossage de dents ensemble dans le même évier, et surtout plus de câlins le soir avant d'aller dormir. Pourtant, avec les parcours de chacun, ces moments d'échange et de proximité sont le fondement même de notre intervention. Et enfin, accepter cette nouvelle routine centrée sur la maison, accepter les autres avec leurs difficultés et leurs humeurs, et surtout, dans cette situation qui laisse du temps pour penser, essayer de s'accepter soi-même. Pour notre part, il nous aura fallu déployer énormément d'énergie pour pouvoir endosser les nouvelles casquettes que nous impose ce confinement. Celle de l'enseignant, comment suivre 8 enfants d'âge et de niveaux différents et les aider au mieux à poursuivre leurs apprentissages et maintenir une scolarité déjà compliquée. Celle de psychologue, puisque les prises en charge médicales sont suspendues. Mais comment accompagner un enfant de 12 ans qui a fait une tentative de suicide il y a quelques mois et dont le retour au lieu de vie dépendait d'un suivi psychologique rigoureux fait par des professionnels. Dans ce moment de crise, éliminant tout rapport extérieur, il nous a fallu redoubler d'implication et d'énergie pour continuer à être un repère de stabilité et de sécurité pour les enfants. En attendant de retourner travailler, nous demandons quelles solutions alternatives vont être proposées aux enfants pour leur famille et leur prise en charge extérieure. Nos temps de travail pourront-ils être aménagés? Car aujourd'hui, nous ne savons pas si nous pourrons fournir autant d'efforts dans la durée. Et c'est signé A et J. Et voilà, enfin, voilà ce que j'aime beaucoup dans cette idée de Clara, c'est qu'effectivement, ça nous permet de toucher des réalités qui sont pas forcément les nôtres, et à la rigueur, j'ai envie de dire tant mieux, enfin, parce que voilà, mais que voilà, c'est toutes ces difficultés là où les gens en fait se retrouvent seuls majoritairement, parce que pas prioritaire, parce que l'État n'a pas compétence tout le temps dans tout, et que c'est vraiment intéressant, enfin, et qu'en même temps, je trouve beaucoup de cris d'alerte quand même dans tous ces, ou de cris de détresse dans ces témoignages qu'on a pu vous lire, et qu'en même temps, c'est une réalité qu'il faut l'entendre, et que je pense que même si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, je pense que, quelle que soit notre position politique, ça nous pousse à réfléchir à ces situations-là, en fait, je trouve. Donc voilà, donc c'était vraiment l'idée de ce témoignage.
Eh ben, merci.
Et je veux juste dire vite fait, c'est le deuxième témoignage, je crois, qu'on tire du site du groupe anarchiste de Lyon qui s'appelle Graines d'Anar. Voilà, c'était juste pour rendre à César ce qui est à César.
Comme aurait dit Jésus. Bref.
Et on va se quitter, logiquement.
Oui. Mais avant, tu avais une petite annonce à faire.
Moi, j'ai une petite annonce à faire. Vous connaissez, en tout cas, les auditeurs et auditrices, on va dire, régulières de l'émission. Vous connaissez les Kings Queer. On les a déjà eus plusieurs fois dans l'émission, etc. Et en fait, la situation du Covid facilite pas la situation des artistes. Et encore moins quand ils sont pas intermittents. Donc, les Kings Queer, en fait, font un peu tourner un chapeau virtuel. Donc, on vous mettra tous les coordonnées sur le blog de l'émission, mais si vous voulez les soutenir, les aider, il n'y a pas de somme minimum. Vous mettez ce que vous pouvez si vous avez les moyens. Mais voilà, soutenez les artistes, en tout cas, soutenez aussi les Kings Queer, et il y en a sûrement plein, plein d'autres.
Et vous pouvez chercher du côté de Adopte un Kings Queer.
C'est ça.
Voilà.
Et ben voilà, on a tout dit. Oui. Je crois qu'on va se quitter avec un titre que j'ai choisi, qui est donc merveilleux, ce titre.
Meilleur pour la fin, c'est ça?
T'as tout compris. Et ben, on va se quitter avec le titre Reset, du groupe Slumb. C'est un délice, c'est un de leurs deux premiers titres de leur prochain album. C'est une combinaison merveilleuse. Je vous laisse découvrir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est bien ça?
C'est ça. Exactement. À la semaine prochaine.
Bisous.
Ciao.
Salut.
When it leaves me, reset my reasons. I kept you around far too long. But if you leave now, I'll get worse. Reset. Is all you needed. luck is in a reason. Let it slip into your head.